Camille Lemonnier, Le Mal, fragment. Le jour de la kermesse arriva. Dès le matin, une fermentation remplit le village. Les cabaretiers s'étaient approvisionnés de bière. Des pains d'épices avaient été étalés par tas à la fenêtre des épiciers. Et toute l'après-midi de la veille, les fours avaient brûlé pour la cuisson des tartes. Devant les portes, le pavé, balayé, reluisait de propreté. Des rideaux frais, relevés par un nœud de couleur, mettaient leur blancheur sur le noir des vitres. Un tapage de ménagères lavant à grands coups de balai les chambres des maisons traînait dans l'air. 10 heures firent sonner les cloches de la grande messe. Alors les brosses et les seaux furent renversés, remisés. Les bras rouges entrèrent et enfilèrent les manches des robes, et la gaieté commença. Des hommes montraient sur le seuil des cabarets leurs faces détendues par une demi-ivresse. Cela était en train, depuis la sortie de la messe, de 8 heures. Une odeur de lampée montait de leurs blouses. Quand des groupes passaient sur le chemin, ils cognaient aux carreaux et les appelaient pour trinquer avec eux. Cela faisait petit à petit des rassemblements. La chaleur étant très grande, on se mettait à la porte debout devant les tables. On se parlait nez à nez, l'un en face de l'autre, avec des gestes amples. Les affaires se traînaient. La finesse, aiguisée par le genièvre, mettait aux prises les marchands de grains et les marchands de bestiaux arrivés du matin. On se secouait les mains. Des démonstrations d'amitié rendaient les yeux tendres. Et la tendresse augmentant, on se régalait de tournées réciproques. Des verres vides encombraient par fils inégales les tables poissées d'écume de bière. Quelquefois, un mouvement brusque d'un buveur faisait bouger les verres qui s'entrechoquaient avec des cliquetis. Ce bruit des verres se mêlait à la rumeur des conversations, et celle-ci formant un bourdonnement sourd qui avait l'air de rouler sous les tables et par moments était dominé par des éclats de voix plus hauts. Dans l'intérieur des cabarets, une fumée bleue battait les plafonds et de là retombait en nuages sur les gens assis. Des dos s'arrondissaient dans des sarraux indigo, lustrés par les filets de jour qui passaient sous les stores de mi-clos. Des coudes nageaient dans de la bière. Sur les faces plus rouges grandissait l'ivresse. Tout le monde fumait. Des étincelles brassèrent au creux des pipes. Ça et là, une allumette éclatait, lueur phosphorescente dans l'obscurité brune. Les bouches rejetaient les bouffées de tabac bruyamment. Des salives claquaient à terre. Parfois, un hoquet mettait comme une couptée brusque sur le ronflement de toutes les voix qui parlaient ensemble. On entendait tinter les verres sur les plateaux portés par les servantes. Celle-ci, la robe troussée, circulait difficilement, bousculée par l'animation générale. Un juron leur sortait des lèvres, alors, tandis que les plateaux chaviraient à moitié dans un large épanchement du liquide. Puis des poussées les prenaient au flanc. Des mains tâtaient leur gorge par-dessus les plateaux. Elles avaient à se défendre encore contre des libertés de gestes. L'échauffement des esprits se mêlait d'un peu de lubricité à la vue de cette chair mafflue qui frôlait les tables. Et à chaque verre, l'effervescence s'accroissait. Les torses se taisaient sur les chaises, se tassaient sur les chaises. Il y avait des écrasements d'épaules le long des murs. Des gens avaient l'air de s'être effondrés sous une lapée de coups de poing. Les mains faisaient dans le vide des mouvements, montant des caves où fermentaient les futailles, achevaient de griser les cerveaux. Dans les cours, le brouhaha n'était pas moindre. On criait, on cognait les tables, des rires battaient les feuillages. Et les bruits s'augmentaient autour des jeux de quilles et du roulement des boules et des chabilles de contestation. À tout instant, la boule partait, frappait la planche d'un coup sec, puis ronflait à bas du sol jusqu'à l'instant où les quilles cognées s'abattaient. Toutes les voix éclataient, alors, criant le nombre de quilles abattues. Les joueurs avaient des trognes rouges sur lesquelles les charmilles mettaient un vert reflet vert clair. Midi tomba sur la soulerie. Des grillements de bœuf à la poêle sifflèrent dans les maisons. On entendit remuer les vaisselles dans la bahut. Et dans le relent des fumiers chauffés par le soleil, passa une odeur grasse de soupe au lard. Le besoin de manger crispait les estomacs. Les cabarets se vidèrent. Les hommes allaient nourrir leur ivresse d'une tranche de bœuf. Quelques-uns, après avoir mangé, se jetèrent pendant une heure sur des bottes de paille au fond des hangars. Le soleil cuisait, du reste, allumant une réverbération aveuglante, à ras du pavé. Les toits de chaume, tapés à cru de ce jaune d'or de la lumière de midi, avaient des tons de poissons rissolant à la poêle. Des bouffées de chaudière sortaient des maçonneries surchauffées. Et tout à coup, la gaieté, un instant assoupie, se réveilla. Cette fois, elle allait durer jusqu'à la nuit. Les cabarets se remplirent de tables plus compactes alors. Un moutonnement de foule ondula aux abords des endroits où l'on buvait. Les pompes de la bière gloussèrent sans discontinuer. Et le houblon fut absorbé par Baquet. Le seuil des portes était occupé par des vieilles femmes, en cornettes propres. Elles étaient assises, leurs mains repliées sur les genoux, et regardaient passer la joie dans le chemin, le plaisir d'être encore de ce monde, après tant de kermesses dont elles avaient eu leur part, mettaient une détente sur leur face boucardée, écrasée d'une infinité de raides. Leurs rides souriaient. Et elles demeuraient là, réjouies, remplies du temps passé. Le village à présent débordait dans la rue. Des bandes de filles au nombre de 6 et de 10 passaient bras dessus, occupant la largeur du pavé. Leurs robes bleues, vertes, blanches, à pois rouges et jonquilles faisaient dans la lumière comme des trous de couleur. Et elles avançaient, marchant lentement et se balançant sur leurs hanches. La pommade donnait à leur chevelure des brillants de plaques de métal. Des collerettes montaient en tuyaux dans leur cou brun. Les niaises baissaient les yeux étourdis de leur luxe de toilette, et les autres, hardiment, jetaient de leurs lèvres rouges des volées de sourire aux garçons qui se poussaient du coude sur leur passage. Une grosse concupiscence s'allumait dans la foule. Celle-ci s'écoulait le long des maisons d'un mouvement continu qui traînait sur le pavé avec un frottement monotone et un peu plus loin gagnait la campagne, enfilait les sentiers, se débandait derrière les haies. Les marchands avaient installé des tables contre le mur des églises. C'était une invitation qui arrêtait les hommes, les filles et les enfants, les retenait devant les étalages avec des regards de convoitise. Il y avait là, sur des nappes à carreaux rouges et blancs, des bocaux de pain aux amandes, de boules en sucre, de gimbelettes et de marrons. Des paquets de saucissons pendaient plaqués de rondelles grasses. Des pains d'épices s'avancelaient avec leurs croûtes luisantes. Et sur les assiettes séchaient des tartes à la confiture de pruneaux, saupoudrées de sucre et de poussière. On voyait en outre des cigares, des pipes, des poupées à tête de cire, des munitions, des trompettes en bois, et dans un carton spécial, des boucles d'oreilles, des broches, des anneaux, toute une joaillerie de pacotilles, émaillées de pierres rouges, jaunes et vertes, auxquelles le soleil arrachait des flammes. Et en face des marchandes de l'autre côté de la place, des êtres noirs, patibulaires, avaient installé des tirs. Une chandelle étant la cible, il fallait la souffler avec la chasse de vent que faisait le courant passant. Il y avait en cet endroit une oscillation de monde planté sur les deux jambes, bouche béante. Des hommes à la file attendaient le moment de tirer. La mort se posait, on prenait les fusils, on épaulait, les pieds distants, les coudes relevés, puis la capsule éclatait. Ce pétardement sec qui ne finissait pas s'ajoutait aux appels rauques des marchandes. Et tout à coup, un orgue de barbarie fit son apparition au milieu des groupes. Le musicien tournait la manivelle, les yeux perdus devant lui, hébété par la roue qu'il avait faite, et de temps en temps, d'une secousse des épaules, remontait la bricole qui lui labourait la nuque. L'orgue étant sonore, s'entendait de loin. Des ribambelles avaient arrivé en courant pour être plus près de la musique, et celle-ci grinçait avec des fioritures de flûte, perdant sur une basse de tambourin roulant constamment. La gaieté à présent s'augmentait de tout ce qui était bruit, lumière, spectacle, prétexte à crier et à rire. Des rondes s'épanchaient sur la place, déhanchées, les bras dessinant des ovres au-dessus de la tête des danseuses. Et cela cessait, recommençait ailleurs, avec des entraînements irrésistibles, en attendant que le bal ouvrit ses portes à l'estaminet du soleil. Et une sueur montait de cette vaste flânerie, sous un soleil brûlant, les dos bouillaient, les chemises collaient à la peau, l'eau par filets ruisselait le long des tempes. On voyait les femmes cambrer leurs seins et leurs reins pour décoller de la chair les robes mouillées. À 3 heures, une poussée se produisit du côté du soleil. On montait 2 marches. Elle était assaillie d'un flot qui ne cessait et qui se tassait, qui se poussait au milieu des indignations des filles froissées et des éclats de rire des garçons, bourrant à coups de poing les rangs devant eux. Le flot se brisait dans la salle, allait s'abattre sur les flancs qui garnissaient les 4 murs, ou bien, incontinent, se mettait à tournoyer avec un élan effréné. 2 clarinettes, un fifre et un tambour, étaient installées dans la cage des musiciens, en surplomb sur la salle, et le fifre, d'un mouvement continu de la tête, battait la mesure, dirigeait son orchestre. La gaieté éparse à travers le village sembla alors se concentrer dans cette large salle du soleil qui tremblait, secouée par l'immense trépignement de tous les couples lancés à travers une danse endiablée. Des cabarets s'échappaient à présent à un large courant d'ivresse. On entendait des bruits de querelles avec des coups de poing sur les tables, et les chamailleries se mêlaient à des chansons psalmodiées par des langues épaisses. Dans les jardins, les boules frappaient les quilles avec fureur. Il y avait des paris désordonnés, des paysans qui n'avaient qu'un pli de chaume et crevaient de misère, pariaient 500 francs sur les jeux. Une mangeaille immodérée accompagnait la soif de boire qui tenait les estomacs. Des femmes longeaient leurs visages dans de vastes quartiers de farinerie. Des enfants barbouillés de prunes aiguisaient leurs dents sur de la pâtisserie sèche. Et les hommes, tenant à deux mains des saucisses de viande de cheval, en tiraillaient à force de mâchoire à la chair filamenteuse. Ailleurs, on se bourrait d'œufs durs et de pain d'épices, et les pains d'épices achevaient de prédisposer les gosiers à des breuveries incessantes. La bande arriva au soleil. Il fallut bousculer en entrant une file de monde qui sortait. Les garçons se mirent en avant, ouvrant un passage avec les coudes, et les filles, pressées l'une contre l'autre, poussèrent de tout leur corps. Un large rayon de soleil filtrait obliquement par les fenêtres ouvertes, et elles mettaient sur la salle un poudroiement vermeil dans lequel tourbillonnait une nuée lourde. Cette clarté les aveuglant, ils ne virent rien d'abord et ils demeuraient sur place, la main sur les yeux, cherchant à se reconnaître. Puis les yeux s'habituèrent. Ils nommèrent par leur nom les danseurs et les danseuses. Les musiciens s'étaient mis en bras de chemise. Une des clarinettes, assommée par la chaleur, gonflait les joues de son instrument en fermant les yeux et en battant à demi la tête. Le fifre continuait à marquer la mesure avec de petits hochements écourtés. Et le tambour, qui était le plus vigoureux, rouait imperturbablement ses baguettes, les sourcils froncés. Et de la cage où tous les 4 se tenaient, partait une musique aigre et glapissante, à laquelle les roulements cuivre du tambour ajoutaient un peu de gravité, et les couples tournoyaient. Chaque fois qu'ils passaient dans le rayon de soleil, une lueur rose illuminait les visages, enveloppait les vestes et les robes dans une échappée brusque. Les sourires immobiles crevaient la face béante des filles. Et les garçons, sérieux, les yeux baissés, semblaient se livrer à un devoir de profession. Quelques-uns, demi-gris, cramponnés à leurs danseuses et les entourant de toute la largeur de leurs bras, mettaient leur gloire à sauter très haut en frappant fortement leurs pieds à terre. Et cela bousculait tout sur leur passage. Un cigare planté dans le coin de la bouche, ils traversaient le bal avec des rivades de poulains fâchés sans tenir compte de la mesure. Par moments, un danseur furieux les rembarrait d'un coup d'épaule. Une vapeur montait des habits et formait au-dessus du bal une buée grossie des fumées de tabac. Des filets de sueur sillonnaient les visages. Germaine sentit une main se couler sous son aisselle. Elle se retourna vivement et vit le commis qui lui souriait. Alors, sans se l'être demandé, ils se balancèrent et, au bout d'un instant, se trouvèrent emportés dans la danse. Ce fut comme une contagion. Zoé fut empoignée à bras-le-corps par un des meuniers, Céline par l'autre. Puis des cavaliers se présentèrent aux demoiselles, bizarres, et toute la bande se mit à danser. Le commis était un grand garçon, maigre, desséché par la noce, tandis que les deux frères traversaient la bousculade des danseurs, cédant de leurs coudes et de leurs larges dos. Lui se laissait entraîner, ne savait pas résister à la poussée des coupes. Et tous deux, alors, étaient obligés de piétiner sur place, l'un en face de l'autre. Cela finit par une déroute. Le commis qui souffrait, à court d'haleine, avoua qu'il n'était pas impossible, qu'il lui était complètement impossible de continuer. Et il reconduisit Germaine à sa place. Elle eut un haussement d'épaule, dédaignant d'instinct les êtres faibles. En ce moment, du renfort envahit la salle. La société des fanfares de l'endroit, son chef en tête, venait d'entrer. L'orchestre entama un air de valse. Il y eut un reflux général, comme d'un trop-plein qui déborde. Et Germaine se vit séparée du commis. Des visages rouges l'entouraient, crispés de larges rires. Et tout d'un coup, elle haussa les sourcils, prise d'un saisissement. Cachaperet était à deux pas d'elle. D'un coup d'œil, elle le vit tout entier, dominant cette cohue de toute sa taille, et une comparaison se fit dans son esprit immédiatement. Il était bien plus fort qu'eux, cela était visible, et plus grand, et mieux bâti. Il n'avait qu'à remuer les coudes pour les écarter. Et il arriva à elle, sourcil irrité. Il lui prit le bras. « Germaine !» Elle le regarda. Il frappa son cœur d'un coup de poing et une moiteur perla dans ses yeux. « Mais j'arrive plus depuis ce matin, » dit-il. « À présent, oh, je vis, puisque t'es là. » Elle fut touchée du cri. Il avait mis sa fameuse veste, celle dont il lui avait parlé. Elle était de velours brun à côtes. Le gilet, le pantalon étaient d'étoffe pareille. Et un col de chemise très blanc retombait sur un nœud de cravate vert éclatant. Son torse carré se dessinait sous l'étoffe avec puissance, faisant tomber les pectoraux. Et comme les gens habitués aux besognes corporelles, il portait son costume avec une aisance incomparable. Et Germaine fut reprise de la pensée que les autres hommes étaient bien détriqués comparés à lui. Et machinalement, elle le regarda devant elle, le dos borné, les ventres débridés, les flottements des habits sur les épaules en bisous, un chapeau de feutre mou posé en travers sur les cheveux noirs. Il est une crânerie martiale. La cohue, tassée, incapable d'avancer, sautait sur place. Des têtes vacillaient. On ne voyait que des bouts d'épaule remuant. Et un énorme battement de pied faisait trembler le plancher. « À nous deux !» dit-il. Et d'un geste rapide, il lui prit la main, mit la sienne sur sa taille et l'entraîna. Elle n'eut pas même l'idée de résister. Le large courant de sa force l'emportait, et subitement, un vide se fit autour d'eux. Cachaperet tournait, cambré sur ses reins, comme pour une rixe. Ses pieds s'attachaient au sol de toute la fermeté de ses inébranlables jarrets. Il élargissait les coudes et carrait ses épaules. Ce fut une trouée. La foule, repliée, oscillait, faisait des efforts pour s'écarter. Des cris partant. « Et attention, Hubert ! Hé, cachaperie, pas de bêtises !» Il n'écoutait rien. Avançait droit devant lui, la courant de son corps, luttant de ses reins et ses épaules de son dos. Des protestations s'élevèrent. Un homme lâcha un mot vif. Cachaperet lui lança un regard froid et lui répondit « Oh, toi, je te repasserai à l'heure. » Le passage ouvert, d'autres couples se mirent en branle derrière eux. La circulation se refaisait. Il y eut une détente dans cette immobilité de toute une foule, et Germaine, balancée contre la poitrine de son danseur, avait un vertige doux. Un moment, il cessa de tourner. Ils demeurèrent isolés au milieu de la foule. Elle sentait ses genoux contre les siens. Sa main froissait son dos. Il la regardait avec un large sourire, heureux. Et lui chuchotait des mots caressants. « Germaine, disait-il, il faut-il que je te ramasse par 10, 20, 50 ? Veux-tu que je me batte contre tous ? Dick Fauty ! » Elle pensait alors à son premier danseur, le neveu de Isard. Et elle adorait la force tranquille du braconnier. Ils repartirent. La musique aigre la berçait entre ses bras voluptueusement. Et le bois, les fumées, l'odeur humaine répandue dans l'air, la grisait petit à petit. Elle se sentait par moments défaillir. Une ébriété se fermentait du reste dans cette salle où les chairs poissées se tassaient. Des rires remplissaient la hardiesse des hommes, dépoitraillant les femmes. La pudeur de Germaine se défaisait au milieu de cette paillardise générale. Quand la danse fut finie, il voulut l'entraîner. « Ah, nous boirons un coup !» Mais elle était avec des amis. Elle n'osait pas. Et puis qu'est-ce qu'on dirait ? Et il répondait « Allez, des idées, viens !» Elle céda. Une polka venait de recommencer. Célina, Zoé et les filles du Meunier dansaient. Personne n'était là pour les surveiller. Il fit déboucher une bouteille de champagne, et comme elle le regardait étonné, il frappa sur la poche de son gilet. « Pas peur !» Et il commanda 3 bouteilles d'un coup pour les camarades. Cela fit sensation. Des mains se tendaient vers les coupes, et les cris des bravos se croisaient. « Vive Hubert ! À toi, Hubert ! T'es donc venu, bon Dieu, et ces créatures, vivat !» Il était debout, l'un contre l'autre, près de la porte, celle-ci les masquant à moitié. Elle agitait son verre et, de temps en temps, y mettait les lèvres, à petite dose. Lui, il tenait la bouteille posée sur sa cuisse. « Moi, je boirai comme ça pendant 6 heures. Il n'y en a pas qui boivent comme moi. » Et désignant d'un mouvement de tête les autres buveurs, il ajouta, en haussant les épaules avec mépris, « Mais c'est pas des hommes !» Il se versa une rasade et continua. « Je t'ai vu tout à l'heure. Tu dansais avec le neveu à Isard. Une fois, c'est rien que je me suis dit. Mais si elle danse 2 fois, oh, je lui donne un mauvais coup au neveu à Isard. Germaine, je suis jaloux. » Elle se mit à rire. « Mais de quoi ?» Ben, « tu sais bien de quoi, de toi d'abord !» Elle remet les épaules, secouait de petites tapes de son mouchoir sa robe grise de poussière et répondait, un peu ironique, « Eh bien, moi non, je suis pas jalouse !» Il se balança alors devant elle, souriant, lui disant, « Si tu voulais, nous serions une bonne paire d'amis, tout de même. » Elle écoutait, sans rien dire, les sourcils écartés, gagnés par les songeries mauvaises. Et il répéta la phrase d'une voix sourde, très caressante. Nous serions une bonne paire d'amis, si tu voulais. Elle fit un effort. « Rentrons, dit-elle. » Le champagne qu'elle avait bu dissolvait ses idées. Elle voulut trouver un appui auprès de ses amis, mais elle les vit de loin, mêlés à un quadrille. Alors, comme elle faisait un mouvement d'impatience, il eut un mot brutal, terrible. « Mais c'est pas la peine. Faudra bien une fois que tu y passes. » Camille Monnier.